Nous sommes le jeudi 27 novembre, il est 21h et des poussières sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Jeux vidéo indé, gros sous et lutte sociale, c'est le nerf de la game et pour la première fois, filmé et diffusé en direct sur la chaîne Twitch de Romain. Ou pas.
Ou pas.
Ou pas. Allez.
C'est en cours. C'est en préparation.
Bonjour Romain.
Salut Xavier.
Ça va?
Ça va. Écoute, des surprises techniques.
Des surprises techniques. J'ai envie de dire, il y en a toutes les semaines, donc moi ça me va.
Ouais, bah écoute, on est chez nous, on est à la maison, tout va très bien. Comment vas-tu?
Bah écoute, ça va plutôt bien. Romain, qui, quand il ne réalise pas le nerf de la game, passe 5h40 à énumérer chaque jeu de sa wishlist sur sa chaîne à ses trop nombreux spectateurs.
Pas du tout. Il n'y a rien qui est vrai dans ce que tu viens de dire.
À part 5h40. Mais parle-nous rapidement de ta chaîne et de
cette émission.
Ouais.
Écoute, c'est l'occasion pour moi de parler un petit peu d'actualité, des nouveaux jeux qui ont été présentés, des nouvelles pages Steam qui sont arrivées, également un petit peu des infos, des sorties, des nouvelles sorties de la semaine. Parce que je fais ça toutes les semaines le mercredi à partir de 13h. Voilà.
Eh bien, on est ravis que tu puisses de nouveau être avec nous pour animer et pour réaliser cette émission. Merci à toi.
Mais...
Bonsoir, mais... Bettina.
Salut.
T'es qui, toi? Je te parle plus, toi, là-bas. Comment tu vas?
Eh bien, j'ai toujours la crève depuis 10 jours, mais je survis.
Eh oui. Oui, oui, parce que Bettina, alors instigatrice de l'événement Indie Game Lyon, qui... a fait une tentative d'attaque bactériologique contre ses co-animateurs à grands coups de vienne crève.
Déjà la semaine dernière elle a commencé.
Ouais, ouais, mais qui a échoué la semaine dernière, qui recommence cette semaine.
Et oui.
Mais que j'espère que tu as quand même entre-temps profité de ce repos forcé pour binger des séries animées japonaises.
Ouais, ouais, ouais. Un peu.
Voilà.
Faites pas les cons, vous êtes en direct. Mais le titre de l'émission n'est pas la bonne.
Ok.
Parce qu'il aurait fallu le changer avant.
Ah.
Mais écoute.
D'accord, donc tu veux dire qu'on est actuellement dans ton émission du mercredi?
Exactement, exactement. L'émission du mercredi, qui déborde.
C'est pas mal.
Qui déborde, très légèrement, grâce à vous. Je suis très heureux de vous y inviter. Ça me fait très très plaisir que vous soyez là.
Non, écoute, c'est pas mal. J'aimerais bien t'accuser, toi, de vouloir totalement prendre le contrôle de cette émission. Heureusement, ce soir, on a un invité. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
Julien, en fait, qui est venu plusieurs fois dans le nerf de la game, qui a toujours été extrêmement mal reçu et pourtant, il continue de revenir.
Mais par toi, hein, uniquement. Hein.
Et cette fois, avec le matos vidéo nécessaire à la diffusion de cette émission sur Twitch et probablement avec l'intention d'en tirer des vidéos assez compromettantes pour nous faire chanter jusqu'à la fin de nos vies.
Bien sûr. Tout contenu compromettant est bon à prendre.
Évidemment, évidemment. Julien qui pilote le collectif Presse F5, qui héberge généreusement le podcast Le Nerf de la Game, on l'en remercie. C'est quoi Presse F5, Julien?
Eh bien, Presse F5, c'est un collectif de streamers et de steameuses. Et on stream majoritairement du jeu vidéo indépendant. On essaye de donner de la visibilité et de la force justement à des personnes qui en général n'en ont pas beaucoup. Ensuite on produit des podcasts, on produit des vidéos YouTube. Bref, si ça se passe derrière un écran, on essaye de le faire. Et on écrit également des articles sur un blog, genre un truc qui existe depuis très longtemps.
À l'écrit, tu veux dire?
Ouais.
Incroyable.
Oui. Non, mais des mots et tout.
Ah ouais, ouais. Les gens savent plus lire.
Mais non, non.
Non, mais en plus, effectivement, on a vu dernièrement cette initiative de mettre des jeux en avant par rapport à des personnes qui sont dans le besoin. Surtout quand Sectaire a fait ses streams de Star Citizen dernièrement.
Mais bien sûr. Évidemment. Oui, Chris Roberts, jamais dans nos cœurs.
Pour Chris Roberts et ses 900 millions de dollars collectés pour Star Citizen, un jeu qui ne sortira probablement jamais.
Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au sommaire cette semaine ? Nous mettons de côté temporairement nos sujets habituels qui impliquent les gros chiffres qui font mal à la tête et les gens qui se font licencier au nom du capitalisme roi, parce que ce soir, on parle de jeux vidéo indés. Et oui, ce soir, on va parler de jeux, des jeux nommés lors de la cérémonie des Indie Game Awards 2025. Et avant qu'on parte dans un name-dropping de l'enfer, je laisse la main à Bettina qui va faire le tour des news récentes des gens qui fabriquent des jeux vidéo sur Lyon et ses alentours.
Ouais, mais juste avant, petite info en exclusivité ce soir, tellement c'est tout frais, c'est arrivé
incroyable.
Aujourd'hui.
Elle profite d'être filmée pour ça. En plus.
Mais oui, incroyable. Mais oui, en direct absolument partout, en mondovision.
Waouh.
Incroyable.
Ouais, j'ai enfin eu la confirmation de la réservation de salle qu'on avait fait pour Indie Game Lyon. Donc ça y est, c'est confirmé. Ce sera bien les 15 et 16 mai. Au CCVA de Villeurbanne, toujours. Voilà, restez en contact, enfin pas restez en contact, mais suivez les réseaux sociaux.
Mais,
pour,
attends, mais qu'est-ce qui aura lieu à ce moment-là ?
Non, mais surtout, on va 15 et 16 mai.
Oui, bah, c'est comme l'année dernière. En fait, on refait des conférences le vendredi soir, qui sont plus pour les pros, mais bien sûr, c'est ouvert à tout le monde. Et c'est tout. Et enfin. Bon, on verra, peut-être on mettra des stands d'assaut ou pas, j'en sais rien, on est en pleine réflexion là-dessus. Et par contre, le salon avec tous les jeux vidéo, ça c'est que le samedi, comme d'habitude, la formule change pas. En gros, c'est la même formule que l'année dernière, quoi. Et donc je disais, ouais, suivez les réseaux sociaux, on annoncera la programmation quand elle sera calée, je pense que ce sera pas avant janvier, parce que là on est en plein dedans. Voilà, ça avance bien en tout cas.
Eh ben, super nouvelle. Nous, on met à jour nos agendas. De toute façon, on y sera parce que ben, tu ne nous laisseras pas ne pas y être. Donc, on y sera. Hein.
Évidemment.
Évidemment. Et puis, il y a des gens qui ont leur revanche à prendre sur un jeu. Bon, écoute, on verra.
T'en as marre de perdre ?
De perdre quoi ? De perdre quand ? Vas-y, sors les chiffres.
Voilà, monsieur la mauvaise foi, c'est parti. Ça y est, ça commence.
Allez, ça suffit les enfants. Laissez-moi faire ma chronique. Et donc ensuite, je vais vous parler de Shepherd. Donc je l'avais déjà évoqué lorsque je vous avais parlé de la soirée de playtest qu'on organisait à l'Aquarium Ciné Café en octobre dernier avec Loïc Jaworski. D'ailleurs, la prochaine sera en janvier et j'aurai l'occasion de vous en reparler d'ici là en temps et en heure. Donc Loïc, qui a cofondé le studio Ultimo Disco, qui développe Shepherd, eh bien ça y est, Shepherd est sorti le 17 novembre. Donc j'en profite pour le représenter. C'est un party game coopératif convivial dans lequel on incarne des chiens de berger malicieux unissant nos forces pour guider les moutons, collecter de la laine et gérer et créer des tenues ultra stylées. Chacun contribue librement à l'objectif commun et est libre de prendre son temps s'il en a l'envie. Il n'y a pas de pression de timer ou quoi. On peut aussi relever des défis pour gagner encore plus de friandises et d'outfits stylés. Les chiens sont vraiment adorables, on débloque de nouvelles races au fur et à mesure des niveaux qu'on valide. Alors il y a évidemment le border collie, mais il y a aussi les chouchous, les teckels, les labradors, les huskies, etc.
On s'en fout, on veut que le border collie for life.
Attends, comment ça, il n'y a pas de... c'est quoi, c'est le corgi?
Oh,
si, évidemment qu'il y a des corgis, c'était j'ai même peur. Dans la démo, il y avait un corgi.
Mais oui, non, attends, comment tu veux réussir sur internet sans corgi?
Voilà, c'est très mignon, c'est très cool. Maintenant qu'il est sorti, il n'y a plus de démo gratuite. Le jeu est à 17,79€ sur Steam, mais il y a des bundles en ce moment avec d'autres jeux. Il y a Pizza Possum ou Bang Bang Barrage ou Wildwoods pour une vingtaine d'euros. Donc allez voir ça. Voilà.
Ok.
Mais je voulais aussi profiter de cette news pour vous parler de la réalité de l'industrie du jeu vidéo. En fait, j'étais à la petite release party pour fêter la sortie du jeu il y a quelques jours et je discutais avec les devs et ils me disaient qu'ils ne savaient pas du tout ce qu'allait être l'avenir de Ultimo Disco. En gros, l'histoire, c'est que le studio a été formé par 5 anciens et anciennes de chez Miklo après que le studio ait mis la clé sous la porte en avril 2024. Donc là, il s'agit de leur premier jeu. Et pour qu'ils puissent se rémunérer pendant les quelques mois à venir, le temps de travailler à la pré-prod d'un nouveau jeu, il faudrait que soit que les ventes explosent, mais genre vraiment, parce que du coup ils sont 5, ce qui a peu de chances d'arriver, soit il leur faut des subventions. Or, ils avaient demandé la subvention à la région dans le contexte de la fin de prod de Shepherd, et en fait, elle leur a pas été accordée, soi-disant, parce que le projet était trop solide. Mais en fait, eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir un coussin financier, le temps de se lancer sur un prochain projet. Et donc, actuellement, ils réfléchissent à ce qu'ils vont vouloir et pouvoir faire aussi individuellement, hein, parce que voilà, chacun et chacune auront pas forcément les mêmes envies et les mêmes possibilités. Voilà, quand on s'est vu, c'était vraiment juste après la sortie du jeu, donc ils étaient vraiment encore la tête dedans. Là, ils continuent à bosser sur des updates, des correctifs de bugs, etc. Donc c'est vraiment tout frais. Ils n'avaient pas du tout pris ni de recul, ni le temps d'y réfléchir à tête reposée. Mais voilà, c'est la réalité. Et le fait est qu'il y a énormément de studios qui sortent un premier jeu et qui se cassent la gueule ensuite parce qu'ils ne réussissent pas à dégager des revenus pour enchaîner sur un second projet. D'autant qu'en plus, maintenant, les éditeurs, ils veulent un prototype, ce qui veut dire que il y a déjà eu plusieurs mois de travail pour pouvoir aller démarcher un éditeur. Donc voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Ils ont un éditeur pour celui-là ?
Pour Shipern, j'ai pas vérifié.
Savoir si au moins une partie des frais de développement ont été couverts par un éditeur ou non en fait, et quel type de deal ils ont pu avoir avec cet éditeur.
Je crois que oui, mais il faudrait que je retourne voir. Je veux pas dire de bêtises.
Parce que en fait, à moins que effectivement il y a des éditeurs qui disent effectivement vu le studio et vu le méga succès précédent. On s'en fout de l'idée, on veut vous avoir et on y va direct, quoi.
Non, mais ils sont auto-édités.
Ok, ils sont auto-édités. Donc, ouais, ça va être vraiment problématique pour eux pour la suite. Alors, le seul avantage, c'est qu'ils vont récupérer l'intégralité en fin des revenus. Désavantage, c'est que des revenus, comme on l'a vu, à moins que ça pète façon Megabank, il y a peu de chances que.
Que ça les nourrisse jusqu'au prochain projet.
Jusqu'au prochain projet.
Ouais. Ouais. Du coup, ils se demandent voilà, s'ils vont rester à 5 pour la suite. Ils se demandent si. Est-ce qu'ils auront des droits de chômage? Je ne sais pas. Comment ils vont faire? Ouais. Pour l'instant, ils n'ont pas du tout la réponse. Hein. C'est juste les questions.
Des fois, c'est pas plus mal de liquider l'entreprise. En fait,
hein. Bah, c'est ça aussi, quoi. Donc, ouais. Voilà.
Mais le jeu vient de sortir, donc il faudra peut-être attendre un petit peu, voir ce que ça vaut, enfin, voir
oui, bien sûr.
Comment ça se passe. Mais...
Voilà, c'était juste l'occasion de parler de ça, mais effectivement...
En tout cas, qui sont finalement le lot de chaque sortie,
c'est ça.
Dans ces conditions.
Ouais. Surtout pour des premiers jeux de studio. Quoi.
Ouais. Mais en plus, là, le truc, c'est que, comme je disais, ils sont 5. Alors, c'est ça qui explique que Shipyard est aussi qualitatif aussi.
Il est beau, hein.
Oui.
Il est agréable.
C'est ça. Ils l'ont vraiment polish et tout. Enfin, il est vraiment super. S'ils avaient été que 2, par exemple, ils n'auraient pas pu faire le même jeu. Mais en même temps, c'est justement parce qu'ils sont 5 qu'ils ont besoin de faire beaucoup plus de ventes. Et ils ne pouvaient pas le vendre à plus de 15 euros parce que les gens n'auraient jamais mis plus de 15 euros pour ce jeu-là. Donc voilà,
Il est à 15 euros, c'est ça, le prix de sortie?
Ouais.
Ok. C'est marrant, ça rejoint vraiment un article dont tu avais parlé hier, notamment Ruvon, sur les prix des jeux, et qu'en gros, qui montrait que les prix des jeux, c'était soit les AAA qui étaient genre à 60, 70, 80 balles, ou des jeux de plus petite envergure qui étaient vendus maximum à 20 balles, 20, ouais. 25, et qu'entre les deux, globalement, ça se cassait la gueule.
C'était un créneau compliqué à attaquer. Ouais.
Effectivement. Merci, Bettina.
Pour ces nouvelles.
Et non, Shepard, c'est cool en plus. Vraiment, ouais. Faudra qu'on fasse un. Faudra qu'on y joue à 4 parce que ça doit être assez bordélique, ouais. Assez marrant.
Ça a l'air super.
Ah ouais. Non, ça a été assez fun.
Bah, ce qui est rigolo, c'est que c'était hier, je crois, Ultia et 3 autres streameuses dont j'ai oublié les noms parce que je les connaissais pas, ont justement streamé Shipper de toutes les 4 et c'était okay. Très très cool à voir. Et du coup, justement, je parlais à Loïc en même temps par message et il me disait putain, c'est trop bien, on n'arrive pas à travailler en même temps, on fait que les regarder jouer.
Ah,
trop cool.
Mais ça va être trop cool, ouais. ça va être trop cool. Surtout, c'est sympa d'avoir ce buzz là juste à la sortie du jeu, c'est vraiment sympa.
Espérons qu'il soit streamé aussi par d'autres personnes. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que Randomize a été pas mal streamé par des petits streamers.
J'ai vu aussi, qui est sorti donc, du coup, il y a trois jours, non ?
Je sais plus.
Pour moi, c'était le 24 ou le 25, non ? Je sais plus exactement quand
peut-être,
c'était.
Peut-être, peut-être. Oui, si, t'as raison. Ouais. Il vient de sortir aussi. J'en avais déjà parlé, mais il n'était pas encore sorti à ce moment-là. Ouais, il vient de sortir et ouais, pareil, c'est cool. Il est pas mal mis en avant sur les nouveautés sur la home de Steam aussi. Donc pareil, c'est une bonne nouvelle.
Oui, pour le coup c'est pas mal. Et puis si un jour le développeur veut passer par ici,
Ah bah, je peux.
Avec grand plaisir.
On peut tenter ça.
Avec grand plaisir. En plus, on n'a pas encore eu de post-mortem, donc ça peut être assez sympa de voir ce genre de choses. L'édition 2025 marque la seconde année d'existence des Indie Game Awards organisée pour la première fois, donc l'année dernière, par 6ONE Indie. 6ONE Indie, c'est un collectif composé de personnes venant entre autres de Women Led Games et de Wholesome Games, qui collaborent avec plusieurs acteurs du jeu vidéo et des médias, souvent en tant que co-diffuseurs ou producteurs de showcase produits pour des tiers. Par exemple, ils ont notamment écrit et réalisé le Humble Game Showcase de 2025, et qui est forcément diffusé sur la chaîne IGN, vu que
IGN, Humble Games, Humble Bundle, voilà, c'est tout
le même, c'est le même papa.
Voilà, même voilà. Propriétaire, on dit.
Pardon.
Le même qui a du pognon.
Pardon, voilà. Attends. Pardon.
Oh, bah non, IGN, avait... c'est un peu ça. Hein.
Non, attends, on avait dit pas les gros sous.
Non, pas ce soir.
On a dit pas ça. Oh, non, ça suffit. Sous couvert de cérémonies récompensant les meilleurs jeux indés de l'année, les Indie Game Awards 2025 sont surtout là pour mettre en avant la création indépendante. Ainsi, dans cette édition, on retrouve aussi bien des catégories classiques qu'on aurait pu retrouver aussi aux Game Awards, vu que clairement les Indie Game Awards ont été créés en réaction par rapport aux Game Awards de ce beau vieux Geoff Keighley, vu qu'on a des catégories classiques comme le game design, design visuel, la narration, la musique, le meilleur jeu, ce genre de choses, mais aussi des catégories plus atypiques et plus spécialisées comme des catégories destinées à des jeux réalisés par des femmes, par des développeurs solo, par des catégories qui mettent en avant des personnes racisées, ou encore des productions issues des territoires en dehors de l'habituel quatuor Amérique du Nord, Europe, Japon, Chine. C'est-à-dire, on va avoir des catégories pour des jeux africains, pour des jeux d'Amérique latine, pour des jeux d'Asie du Sud-Est et des jeux océaniens, donc Australie, Nouvelle-Zélande, mais je pense que ce serait bien de renommer ça aussi en Océanie.
Ils l'ont appelé ANZ, hein, le truc, ouais. Australie-Nouvelle-Zélande, mais normalement ça concerne aussi les îles voilà. Qui composent l'Océanie. Ouais,
avec une catégorie en plus qui est chère à ton cœur.
L'accessibilité. Oui, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que ce sera le thème du premier jeu dont je vais parler totalement?
Une fois que tu es légitime à parler de quelque chose.
Merci.
Autant en profiter.
Oui, je préfère être légitime là-dessus que pour, je sais pas, parler d'un jeu comme Star Citizen. J'ai dit que j'aimais pas Star Citizen. Bordel.
Est-ce que Star Citizen est validé par le parti?
Visiblement non. L'événement se veut porteur d'un sens, en fait, en s'éloignant du format ultra commercial des Game Awards traditionnels, et en fait, il veut célébrer la créativité, la prise de risque et la voie des développements alternatifs, ce qui s'est vu notamment dans la cérémonie de l'année dernière qui faisait la part belle, notamment aux interviews de développeurs, beaucoup plus qu'aux shows habituels. Qu'on peut avoir.
Il n'y avait pas de show, hein, il y avait simplement les jeux, voilà. Les développeurs.
Il y avait les jeux et développeurs qui en parlaient, quoi. Ouais. Romain, oui. Est-ce que tu veux. Je sais que tu as regardé un peu qui faisait partie du jury.
Oui, parce que il y avait effectivement toute la question de comment est-ce que les jeux sont sélectionnés, quelles sont les règles, quelles sont les. L'histoire du fait que tu peux présenter ton jeu s'il en a early access.
Voilà.
Mais ça veut dire que ensuite t'as plus le droit de le proposer si quand il sortira en 1.0 à des futures éditions. Une interdiction totale d'utilisation d'IA générative également, qui est complètement ancrée dans le principe. Et puis donc on a effectivement un jury assez varié. On a des individus, un petit peu des personnalités anglo-saxonnes, hein, globalement de la critique ou de la création de contenu autour de jeux vidéo.
Quelques personnages qui ne sont pas anglo-saxonnes mais qui parlent anglais, hein,
typiquement oui, mais anglophone,
des personnes qui viennent d'Asie typiquement des personnes qui viennent d'Asie et d'Amérique latine, mais globalement on est sur des intervenants extrêmement anglo-saxonnes,
anglophones de façon générale, oui.
Très peu de représentants européens d'ailleurs, j'ai vu,
mais il y a des magazines comme Game Informer, GameSpot, Giant Bomb qui est dedans. Donc on a aussi des créateurs de contenu YouTube qui sont un petit peu connus comme Noclip, Minmax aussi, Qu'est-ce qu'on a également? Des organisations que tu les as un peu citées, que ce soit Women Led Games, Wholesome Games, Black Voices in Gaming, Frosty Games qui s'occupe de l'Australie.
The Mix aussi pour tout ce qui est Black Voices, etc.
Et l'International Game Developer Association aussi qui est assez présente. Comme on en parlait ensemble, il y a aussi Insider Gaming. Qui est, on va dire, une publication qui est un peu plus problématique à mon sens, parce que...
C'est une boîte à proutes.
Non, ils ont tendance à relayer toutes les rumeurs vraies ou fausses.
C'est ce que je viens de dire.
Et à valider, ils ont validé récemment un narratif, par exemple, du streamer Ninja qui nous a sorti un beau « C'était mieux avant, ouin ouin, la cancel culture, on peut plus rien dire ». Mais bon, à part ça...
Ils aiment bien Julien Chiez, voilà.
À part ça, le jury est quand même globalement solide, même si effectivement très... il est très nombreux.
Oui.
Très très nombreux, il y a beaucoup
de très divers.
Et finalement, pas mal d'organisations qui font aussi partie de la sélection, finalement, des nominations qui sont un peu les mêmes de l'organisation, donc, comme tu l'as cité tout à l'heure.
C'est ça.
Il y a un petit peu les règles dans les.
Ouais, je voulais l'aborder si ça te va. Il reste la question, évidemment, vu que parmi les jeux mis en valeur cette année, il y a certains qui ont eu beaucoup de succès, dont on parlera pas forcément pendant cette émission, vu que. Normalement, si vous suivez un peu le monde du jeu vidéo premium, vous avez entendu parler de ces jeux, que ce soit Hollow Knight Silksong, Blueprints, Hades 2, ou un dénommé Clair Obscur Expédition 33. Alors certes, ça démontre la vitalité et la diversité de la scène indépendante, mais ça aussi, ça pose la question, comment les Indie Game Awards déterminent ce qu'est un jeu indépendant et comment ils déterminent ce qui n'en est pas?
Ils ont une définition qui est proposée.
Oui, ils ont une définition, je me suis permis de traduire. Alors d'abord, ils admettent que la définition de ce qui est indé ou non dépend de la perspective de chacun, mais eux, pour faire des critères, ils ont déterminé que un jeu indé, c'était un jeu conçu et publié par des développeurs qui ne sont ni détenus ni contrôlés financièrement par un éditeur ou une société majeure, ce qui leur permet de créer dans un environnement sans restriction et donner libre cours à leur vision. Et pourquoi je me suis arrêté sur le mot majeur? Parce que c'est là-dessus que va se baser globalement la distinction entre ceux qui prennent et ceux qui prennent pas.
Parce que c'est eux qui définissent qui est majeur et qui ne l'est pas.
C'est ça, je vais être clair. Donc en fait, le cas de Clair Obscur a suscité des débats en interne. L'argument final est que Clair Obscur, il considère que Clair Obscur a été financé entièrement par Kepler Interactive, qui avait pu participer à l'édition 2024 avec Pacific Drive et avait d'ailleurs remporté un titre à ce moment-là. Kepler Interactive est considéré comme un éditeur indépendant au même titre que Devolver Digital et Annapurna Interactive. Par contre, des éditeurs comme THQ Nordic, Valve, From Software ou Kojima Productions qui sont aussi peuvent être considérés comme des éditeurs indépendants, eux sont considérés comme trop gros et majeurs.
Oui, c'est ça. Mais t'as donc, qu'ils produisent que leurs propres jeux.
Voilà.
Alors que THQ, c'est effectivement du double A extrêmement large.
C'est ça. Alors que bon, on peut discuter par rapport à la valorisation d'un THQ ou d'un Devolver actuellement. Donc après voilà, moi je suis d'accord sur le fait qu'ils aient pris on va dire une règle assez arbitraire pour dire c'est dedans, c'est pas dedans. C'est normal parce qu'au bout d'un moment il faut trancher. Mais voilà, c'est juste pour donner un peu une idée de ce qu'il y a dedans. Globalement, effectivement, tout ce qui est Xbox, Nintendo, Sony, Square Enix, Sega, Bandai, Namco, tout ça, bon, ça vous aurez pas et ça, et c'est plutôt logique.
Oui, donc effectivement, on va avoir l'occasion de parler de pas mal de trucs, pas forcément très connus. Et c'est plutôt, malgré tout, une bonne chose qu'il y ait un minimum de visibilité là-dessus, malgré la présence, comme tu le disais, des mastodontes que sont Clair Obscur, Silksong, Hades 2, Blueprints, dans une moindre mesure.
C'est ça. De toute façon, tous ces jeux-là, on n'en parle pas, tout simplement, parce que Geoff le fera. voilà.
C'est vrai qu'on n'a pas fait la liste de ceux qui sont présents dans les deux
conférences. Mais globalement, déjà, ceux-là...
Ouais, mais du coup, ça va être intéressant aussi, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que les Indie Game Awards seront décernés le 18 décembre.
Une semaine après
les Game Awards. En France, ce sera à minuit et demi sur les chaînes de 6ix1ine Indie, d'IGN et de GameStop.
C'est ça. Et sachant que ouais, les Game Awards, par contre, ça c'est à 5h du mat, donc je vous laisse regarder.
Hein. Oui, c'est au milieu de la nuit. Alors qu'eux, ils sont à minuit et demi en France. Donc c'est peut-être accessible un jeudi soir. Enfin, la nuit de jeudi à vendredi.
Yes. Je pense qu'il est temps de parler de jeux vidéo.
Est largement temps.
Voilà. Bettina, on va commencer par toi. Par lequel tu veux commencer? Tu en avais mis 3 sur ta
ouais,
liste.
En vrai, j'en ai mis plein, mais il a fallu réduire.
J'en ai mis 18 aussi. Hein,
mais ouais, bah, je vais commencer par Tempopo. D'ailleurs, parenthèse, je pensais que Julien, tu serais à ma droite. Et du coup, c'est pour ça que je m'étais mis comme ça. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, personne ne te voit. Tu es le régisseur de l'ombre.
C'est pas grave, on voit ma main. De temps en temps, genre quand je fais ça.
Bref, donc ouais, je vais vous parler de Tempopo, donc qui est dans la catégorie ANZ, donc Nouvelle-Zélande, Australie, Îles du Pacifique. Donc c'est un jeu de casse-tête musical où on doit aider des Tempopo, donc des petites bestioles roses, à retrouver les fleurs du jardin qui se sont envolées. On incarne une chef d'orchestre et le concept, c'est qu'on lance la musique et alors là, il y a tout qui s'active au rythme de celle-ci et donc les Tempopo se mettent aussi en marche. Sauf que pour que tout se passe bien, il faut planifier les itinéraires des Tempopo. Je vous ai regardé en régie, ça m'a perturbé. Qu'est-ce qu'ils font les zouaves?
On lit le chat.
D'accord.
C'est une erreur.
Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il faut planifier les itinéraires des Tempopo. Donc on peut leur ordonner de pousser des objets, soulever un camarade, détruire des obstacles, etc., etc. Et donc pour réussir un niveau, il faut récolter toutes les fleurs. C'est tout simple, mais c'est très chouette. C'est un bon petit jeu de puzzle. Et c'est développé par le studio Witchbeam qui a notamment fait Unpacking, un jeu de puzzle aussi, mais qui n'a rien à voir et qui est excellent également. Voilà, moi j'ai bien kiffé Tempopo. Je l'ai fait de bout en bout et après, une fois qu'on a fini tous les niveaux de l'histoire, on va dire, même si l'histoire n'est pas du tout importante, il y a aussi des niveaux supplémentaires. Donc voilà, il y a pas mal de niveaux, en gros.
Ok, donc on en a pour son argent.
Ouais.
Ce qui n'était pas forcément le cas sur Unpacking.
Ah, peut-être
un peu cher. Il était à 15-20 balles, je crois.
Il était à 20 balles pour,
ouais, pour le coup, pour une.
Pas tant d'heures de jeu.
Ouais.
Ouais, et puis surtout, une rejouabilité nulle.
Ah oui.
Donc, mais ça restait une proposition très intéressante.
Ouais.
Oui, pour le coup, pour ce qu'il raconte, il est vraiment très intéressant, Unpacking. Ouais. Mais là, le Tempopo, j'aime bien parce qu'il y a un grand changement en termes de ton et de gameplay par rapport à Unpacking. Ouais. Il est souvent facile pour des développeurs de dire bon, bah, j'ai une formule, ça a bien. Surtout qu'Unpacking a plutôt bien marché. Mmh. Autant faire pareil. Là, quand tu m'as parlé de Tempopo, j'ai l'adjectif choupi mignon qui me vient.
C'était ça.
Ouais, c'est ça. Hein.
Ouais, ouais.
Il y a un truc où je me dis, oh là là, ça a l'air...
Totalement, c'est totalement ça. C'est très mignonné, c'est très coloré, c'est très... puis les musiques, voilà, tout est fun et choupi, mignon, coloré, ouais. Mais c'est cool.
Cool. C'est, donc, et c'est, eux, ils viennent d'où, exactement?
J'ai pas regardé, voilà.
Voilà.
Vers
ils
là-bas.
Viennent d'Océanie, loin là-bas.
Voilà,
voilà.
Dans le coin.
Voilà. Romain.
Écoute, moi j'ai eu pas mal de choix et je me suis dit je vais prendre dans le narratif.
Allez.
Je vais prendre dans le narratif parce que la catégorie elle est fat. Mm-hmm. Entre Citizen Sleeper 2, The Drifter, The Seance of Black Manor et The Road to Trees Are Dead, j'ai évidemment choisi The Road to Trees Are Dead, que j'ai fait il y a quelques mois. C'est quand même, je pense, un de mes jeux de l'année. Depuis sa traduction française, qui est quand même de très très bonne qualité, j'ai pu découvrir donc, de façon assez confortable ce jeu d'enquête généalogique qui avait commencé comme un jeu de game jam à l'époque avec des graphismes générés par IA.
Oui, parce que c'était
à l'origine,
game jam.
À l'origine de la game jam. Enfin,
toi,
de la game
tu
y jam.
Avais joué en français ou en anglais?
En français.
Okay.
J'ai attendu la sortie de la version française en fait, pour me mettre dedans. Et du coup, le jeu en fait a attiré l'attention après cette game jam. Et quelqu'un est venu voir le créateur, un certain John Stone, si je dis pas de bêtises, qui a donc il lui a proposé en fait de d'étendre le concept et de remplacer les graphismes faits par IA par quelque chose d'inspiré de ce qui avait été généré par IA, mais avec un vrai artiste qui les faisait. Du coup, voilà, le jeu colle donc à la définition qu'on avait décrite tout à l'heure, donc sans IA en soi, mais donc voilà, c'est quelques mois plus tard qu'il est sorti en version complète, on va dire, sur Steam pour en faire donc un des meilleurs jeux de déduction logique de l'année, clairement, dans lequel, donc, suite à un accident tragique d'avion dans lequel périssent le directeur de la compagnie familiale des bonbons Route Trees, avec sa femme et ses trois filles, on est chargé par un mystérieux commanditaire de découvrir qui fait partie de la lignée de la famille directe des Route Trees pour l'héritage. Et donc, on doit remplir un arbre généalogique avec les noms, photos, liens familiaux, à partir de documents, d'articles de journaux, de recherches sur Internet. Enfin, voilà, vraiment de la déduction logique avec, voilà, vraiment en fait prendre les éléments, les assembler entre eux et le jeu nous informe toutes les trois propositions correctes qu'on a eues juste. Oui. Un peu comme Obradine, qui suit la même logique à ce niveau-là. Et donc voilà, ça reste. C'est un jeu moi qui m'a pris, je sais plus combien d'heures, une dizaine, douzaine, je pense, quelque chose comme ça.
Oui, je pense. Ouais.
Un jeu très bien pensé que j'ai trouvé très prenant dans son fonctionnement, dans la progression, la façon dont on gagne des nouvelles connaissances et comment est-ce qu'on va les exploiter pour déduire de nouvelles choses. Et qui a déjà commencé à faire des petits. Avec notamment un petit jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps, qui s'appelle A Case of Fraud, un jeu néo-zélandais pour le coup, qui est sorti, je crois, il y a 3-4 semaines, un truc comme ça, et qui reprend complètement le principe de l'arbre généalogique à remplir avec des informations, des déductions. C'est un jeu avec beaucoup moins de moyens, beaucoup moins ambitieux, mais que je conseille tout autant, que j'ai fini il y a quelques jours, et que je conseille tout autant aux amateurs de réflexion logique, les deux, que ce soit The Root Tree Are Dead ou A Case of Fraud, si vous avez aimé l'un, vous aimerez l'autre.
D'accord, donc le principe du jeu de déduction, un peu comme de Rise, ou The Case, pardon, of the Golden Idol, a fait des petits aussi.
Oui, Case of the Golden Idol a fait des petits, même si là je pense qu'on est plus dans le fonctionnement de la déduction d'Obradine. Mais voilà, tu vas chercher des infos et tu en déduis quelque chose.
Oui, je ne dis pas que le pareil, c'est juste qu'il y a un côté...
Mais je me suis senti plus proche de celui-ci que de Case of the Golden Idol, qui fonctionne autrement, qui peut fonctionner par essai erreur. Enfin,
c'est vrai, effectivement.
Peut-être plus exactement le même, qui est excellent aussi. Hein, mais...
Et moi, The Root Tree Are Dead, ça fait partie des jeux que j'ai pas joué, mais que j'ai regardé en let's play. Et donc, j'ai regardé Mister MV y jouer. Et
en 14 heures.
Il a fait donc une première session.
Il a fait
session,
le jeu d'affilée.
Une première session de 2h13 et une deuxième session de 15 heures. Il a joué 15 heures d'affilée. Il a fait une nuit blanche. Il a pas pu décrocher du truc. Donc, c'est dire à quel point il peut.
Bah, c'est ce qu'il avait dit au départ, non? On arrête quand c'est fini, un truc comme ça.
Je sais pas, mais
je sais plus
cas,
comment
voilà,
il avait lancé son truc. Mais...
Et puis, bon, bah,
il a dit j'arrête quand je veux.
on constate son endurance quand il organise le speed.
Ouais, faut qu'il fasse attention à sa santé aussi. Des fois, je m'inquiète un peu. Mais mais du coup, c'était trop bien. J'ai tout regardé et c'était trop marrant de l'écouter aussi galérer en plus avec la fatigue. Enfin voilà, il a fini à 8h du mat. Enfin bon, c'était très drôle.
Moi, en tout cas, c'est un jeu qui est aussi sur ma wishlist. J'ai pas regardé de let's play. Et je crois que t'avais fait aussi
fait un bout de stream.
Un bout de stream, et j'avais coupé vite justement pour pas me spoiler, justement, parce que je me dis que c'est un jeu qui joue bien aussi quand on est plusieurs derrière l'ordi, quoi.
Oui,
ça,
tout à fait.
Ça peut aider parce qu'effectivement, c'est pas facile. Il faut vraiment tout suivre. Il y a énormément de documentation à lire parce que du coup, ça se passe comme ça en fait. C'est que tu lis beaucoup de choses et il faut essayer d'en déduire les informations importantes pour résoudre.
Qui vont te servir par la suite.
Et c'est très complexe. Ouais, ça peut aider de le faire à plusieurs.
Et toi, Xavier ?
Écoute, je vais parler assez rapidement d'un jeu qui s'appelle Barista, qui est dans la catégorie accessibilité. Pour rappel de ce qu'est l'accessibilité, c'est le fait de rendre les jeux utilisables et jouables par les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, que ce soit un handicap sensoriel, c'est-à-dire visuel, ou sonore, handicap cognitif ou handicap mental, handicap physique, quel qu'il soit. Ces dernières années, on a eu de plus en plus d'efforts qui ont été faits dans cette direction par aussi bien les jeux indés, mais aussi par les très grosses firmes, que ce soit au niveau du matériel mis à disposition des joueurs, que sur les options qui sont disponibles pour les joueurs, et c'est une très bonne chose. S'il y a moins, par contre, pas tant de jeux que ça qui sont vraiment développés à destination de cette population là, où on va se dire on va faire un jeu pour tout le monde. C'est le principe, c'est la différence entre le design for all, c'est-à-dire on va faire un jeu pour tout le monde et après on va faire des adaptations, et on va dire non, on va faire un jeu qui va être destiné à telle ou telle population. Le jeu dont je vais vous parler, il s'appelle Barista, et c'est un jeu qui a été fait pendant une game jam de jeux destinés aux personnes aveugles.
D'accord.
C'est un jeu, en fait, beaucoup relativement simple. C'est un jeu où il y a des clients qui vont arriver, qui vont énoncer leurs commandes, et il va falloir juste faire leurs commandes. On est dans un café, donc il va falloir faire des cafés, des cappuccinos, des lattés, des glaces, des cinnamon rolls, ce genre de choses.
Est-ce que Fito, je connais?
Alors, justement, Évidemment, moi, ça m'a fait penser d'abord à Coffee Talk, sauf que Coffee Talk est avant tout un jeu narratif, et globalement, si tu te plantes, à part dans quelques cas, globalement, la majorité des cas, tu auras juste une réaction différente. Là, le but du jeu est, comme dans un jeu plutôt orienté arcade, d'arriver à la bonne commande, entre guillemets. Et comment ça fonctionne quand on est aveugle? En fait, il va y avoir une voix, t'arrives sur ton premier jour, on te dit, ben c'est simple, devant toi tu as le comptoir, sur ta gauche tu as les tasses, sur ta droite tu as la machine à café. Je t'explique comment fonctionne la machine à café. T'appuies une fois, deux fois ou appuies long pour faire différents types de café. Et ensuite tu prends les commandes, c'est parti quoi. Et donc en fait c'est un jeu de mémorisation. C'est avant tout un jeu de mémorisation, et le truc au début, on dit attends, mais si je dois juste savoir attends gauche, droite, machin, tu t'y retrouves pas. En fait, tout fait un bruit différent.
Ok.
Tout fait un bruit différent, spatialisé aussi. Et c'est trop bien. Et c'est trop bien. Par exemple, notamment, à un moment, on va te demander des trucs un peu plus costauds, genre faire un latte et tout. Donc, faut que tu fasses le café et en même temps que tu fasses chauffer le lait en même temps. Et le truc, c'est que du coup, quand le café est en train de préparer, tu fais chauffer le lait et donc tu entends le café qui est en train d'être préparé, mais sur ta gauche, parce que le truc pour préparer le lait est à droite, etc., etc. C'est trop bien.
Okay,
c'est vraiment trop bien.
Tu dis que c'est un jeu qui a été fait pour une game jam.
C'est un jeu qui a été fait pour une game jam. Il dit alors sur la page, ils disent qu'il est encore en développement. Il y a pas d'annonce pour que ça aille plus loin. S'il est nommé ici, je pense que malheureusement, ça ira pas plus loin parce que le jeu est relativement court vu que ça a été fait lors d'une game jam. Mais j'ai adoré le principe et j'aime bien qu'il y ait justement ce genre de choses. C'est juste voilà la différence entre avoir un jeu qui va comme on a pu avoir à Lyon comme Blind Legend notamment, qui est destiné à des personnes aveugles, qui peut être joué par des personnes qui sont pas aveugles. Typiquement moi j'ai joué à Barista juste en fermant les yeux, c'est trop bien, ça marche extrêmement bien. Mais avoir des jeux qui sont destinés à un certain type de public comme des jeux pour des personnes sourdes, etc., ça peut être vraiment très intéressant, et j'aime bien qu'il y ait ce genre de choses, et j'aime bien le fait que dans ce type de cérémonie on ait aussi des jeux très niches avec ce type d'avantage pour donner la différence avec la partie accessibilité qui est faite dans les Game Awards, qui est aussi très intéressante. Ils ont pris des jeux mainstream qui sont pour le coup faits pour des gens qui n'ont pas de handicap en particulier, et avec on a mis en avant les efforts des studios pour l'adapter à des personnes en situation de handicap.
Au plus de public possible,
voilà.
Quelles que soient les
conditions. C'est pour ça que là, j'aime bien le fait que ce soit un peu fait de manière différente et inversée. Quoi.
Ouais, c'est super chouette, ça donne très envie d'essayer. Ouais.
C'est gratos sur Itch.io.
Okay. Trop bien.
Jouable sur navigateur ou...
Une sur navigateur.
En plus, ouais. Okay.
Fait avec Godot.
Ah.
Voilà.
Ok.
Julien, toi, t'avais des jeux ou...
Oui, alors en fait, je suis venu aussi bien préparé en termes de contenu qu'en termes de technique.
Je vois ça.
Mais bien sûr, comme je suis streamer professionnel, je peux blablater pendant des heures.
Laisse-moi le temps de parler d'un autre jeu après, s'il te plaît.
Oui, je vais aller vite parce qu'en fait, autant je suis très content de voir des jeux comme Blue Prince, comme Ball Pit... Hein, Monsieur Béboule.
Béboule.
Blue Prince qui a englouti un certain nombre d'heures et de neurones, notamment sur notre Discord.
Et Ball Pit qui a englouti
le reste.
Qui a englouti le reste.
Oui, toutes les addictions, elles sont passées là-bas.
Je suis très content aussi de voir Wonderstop, qui est un jeu qui fait vraiment le pari de vouloir parler du burn-out, un sujet très compliqué, et il le fait plutôt bien. Je l'ai pas fini, mais j'ai aimé le temps que j'ai passé dessus. Mais le petit arrêt que je vais faire, c'est sur... Alors, je vais probablement bouffer son nom, c'est sur The Last Queen of Mortalm. The Dark Queen of Mortalm. J'hésitais entre les deux.
Okay.
Bref, c'est l'un ou l'autre. C'est un jeu qu'on a découvert, en fait, sur Itch.io, qui était, du coup, gratuit, qui vous propose de ne pas incarner le protagoniste, enfin, de ne pas incarner le héros d'un Dark Soul, mais un boss de Dark Soul.
Ah, c'est celui-là, ok, je vois.
C'est celui-là. Et il est excellent, vraiment. Il est pas très long, je crois.
Il se finit en
45, 30 minutes, 45 minutes, quelque chose comme ça. mais on a affaire à un pixel art d'un niveau incroyable. Je trouve ça magnifique pour un jeu gratuit. Les dialogues sont sympas, ils sont fun. C'est une petite expérience, mais qui vaut vraiment le coup d'être faite. Je crois qu'il a une page Steam maintenant.
Oui, alors il a une page Steam, il a 5 balles, par contre.
Voilà, il a 5 balles.
Je crois qu'ils ont un peu rajouté 2-3 trucs, mais
notamment le
contrôle manette, ce genre de choses.
Apparemment, il y a plus de fin aussi.
Peut-être. Mais en tout cas, voilà, l'idée de base, le concept, truc très simple.
Oui, oui, oui.
Et ce qui pour moi est très représentatif, surtout c'est pour ça que je l'ai sélectionné, je le trouve très représentatif de ce qui devrait être dans les Indie Games Awards. C'est un concept, c'est minimaliste, c'est indé et c'est vachement cool.
Oui, et en plus c'est un jeu donc qui est nommé dans la catégorie bite-sized game, donc des jeux vraiment tout petits, des jeux qui se finissent en une heure max. Dans la même catégorie et dans le même concept, je conseille très fort This Game Will End in 205 Clicks. Et en fait, exactement comme The Dark Queen of Mortholm, globalement, ce sont des jeux qui se concentrent sur la figure du méchant, sa fonction en tant que personnage, son écriture, son destin aussi funeste qu'inéluctable. Et au final, en fait, c'est un jeu court qui, par ses mécanismes et par sa narration, permet de comprendre comment n'importe qui peut se sentir un jour enfermé dans l'immuable routine du quotidien sans solution visible pour s'en sortir. L'autre jeu le montre très très bien aussi. Donc,
ils sont assez proches dans cette thématique.
Je l'appelle 205 clics parce que voilà, mais
c'est trop long.
C'est un très bon jeu qui se termine aussi en 30 minutes, même moins quoi.
Et ben dans la même catégorie, du coup, transition toute trouvée, moi je voulais vous parler de Karimara. J'essaye de faire vite, comme ça après, Romain, tu pourras en enchaîner un autre.
Jeu de cartes.
Oui, alors,
pas
non.
Du tout.
Il y a des cartes, mais
pas
en fait, non.
Toi, t'es névrose. Hein.
Ouais, c'est ça. J'ai un truc contre les cartes.
Développé par un solo dev français qui s'appelle Bastinus Rex, édité par Critical Reflex, qui se spécialise dans les jeux chelous avec esthétique dérangeante, genre Buckshot Roulette, Arctic Eggs, Mouse Washing, Threshold, No Home, Not a Human, etc. Donc dans la lignée de cela, on a aussi une esthétique très particulière dans une vibe un peu PS1, enfin voilà, si vous voyez un peu le truc.
Noir et blanc aussi.
Ouais, enfin pas noir et blanc, mais il y a très peu de couleurs.
Ouais, c'est une palette assez violette.
Ouais, grisâtre, c'est ça. Et donc, Karimara, bah voilà, c'est aussi une très courte expérience d'à peine plus d'une heure, donc je vais en dire le moins possible pour rien gâcher. En gros, on incarne un Karimara, c'est un petit être magique qui répond à une petite annonce, une vieille femme a un problème de fantôme, voilà. Et on doit alors récolter des infos pour comprendre ce qui s'est passé, résoudre l'enquête, l'énigme en fait. Et côté gameplay, les infos qu'on récolte se matérialisent sous forme de cartes, et c'est avec ces cartes qu'on peut communiquer, enfin discuter. Et j'ai adoré la fin, et je le conseille vraiment, c'était trop bien.
T'as dit la fin? Est-ce que t'as fait la deuxième fin?
Je savais pas qu'il y a une deuxième fin.
Bon, on en parlera en antenne.
Comment il spoil? Incroyable.
On en parle en antenne, mais il faut que tu fasses la deuxième fin.
Oui, c'est.
Mais du coup, effectivement, je vais rester dans la même catégorie.
Ah, d'accord.
Dans les bite-sized.
En fait, on s'en fout du reste.
Écoute, elle est tellement bien fournie, je trouve.
Mais ouais.
Avec la catégorie narrative qui était monstrueuse aussi.
Oui, oui.
En parler, ça prendrait des heures.
Ouais.
Du coup, je vais vous parler de Many Nights a Whisper. Alors je triche un peu parce que j'ai écrit un article dessus sur Presse F5
Escroc.
Au mois de juillet, donc de la Déconstructime, ce studio andalou qui est donc de Séville, si j'ai pas de bête, non, de Valence en Espagne. Donc un jeu comme souvent chez la Déconstructime, vraiment incroyable au niveau des, enfin très très radical dans la proposition. On y joue le rôle d'un lanceur de flammes, une enfant entraînée pendant plus de 10 ans pour allumer une vasque sacrée d'un tir unique à plusieurs centaines de mètres de distance. La responsabilité est énorme si le tir est réussi. Tous les vœux qu'on aura acceptés et qui constituent finalement la matière première de notre fronde se réalisent, et sinon, aucun de ces vœux se réalisera. Donc on doit s'entraîner le jour au tir, et la nuit, on jauge les vœux qu'on veut éventuellement voir se réaliser ou non. Donc voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre à nouveau, je trouve, de narration. Ils ont déjà habitué à ce genre de truc. Hein.
Ouais.
Moi, je dis tout de suite, jouer à Gods Will Be Watching et à The Cosmic Wheel System.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin, il y en a d'autres de la Déconstructive,
oui.
Mais déjà ces deux-là, c'est un bon début.
Mais ils sont très forts, ouais.
Mais Men in Dice Whisper, j'avais écrit quoi? J'avais écrit que c'était un concentré d'émotions et de philosophie en une heure de gameplay.
Ouais, ça, c'est le troisième. Je reconnais, c'est le troisième paragraphe, ça.
Ouais, c'est ça. Une démonstration de créativité narrative dans un écran doux et évocateur. Le tout pour à peine 3 euros. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Et tu sais ce que j'avais marqué en dessous?
Oui.
Avant qu'on en parle, etc. J'avais marqué mes mentions à Karimara et à The Dark Queen of Morton.
Ouais, voilà. C'est vrai.
Je peux pas faire mieux
tout,
que.
Tout se recoupe.
Ah, mais complètement. Mais je pense qu'on voilà, on sait de quoi on parle.
Vu qu'on n'aime que soit les jeux narratifs, soit les jeux qui font moins d'une heure, je vais essayer de parler d'un jeu qui n'est pas dans une de ces deux catégories. Je vais parler de 30 Birds, qui est dans la catégorie.
Ah oui, alors tiens, ça m'intéresse catégorie bien ton avis.
Parce que, qui est dans la catégorie de design visuel.
Ouais.
Parce que le jeu. A une gueule pour le coup, c'est ça fait partie des jeux qui ont une vraie démarche graphique. 2025, c'est vraiment l'année où enfin on a vu sortir 30 Birds, parce que c'est un jeu qu'on a vu apparaître à droite à gauche. Je crois que la première démo auquel j'ai joué, ça doit dater de 2020, un truc comme ça. En fait, c'est un jeu aventure puzzle façon point and click, où en fait les différents tableaux de ton point and click seraient des surfaces de lanterne en rotation. Et on explore les quartiers suspendus de la cité lanterne. On discute avec une ribambelle d'oiseaux un peu frappé, on va dire, et on collecte des indices et on résout des énigmes pour retrouver la déesse Simurgh, enlevée par un savant fou. Moi, sachant que ma partie préférée dans tout ça, c'est quand j'ai fait du dub avec une machine à laver.
D'accord, on va faire un contrôle antidopage, hein, quand même.
Non, mais c'est vraiment dans le
jeu. Oui, mais c'est une empêche.
C'est
on va contrôler, quoi.
C'est là, on dit fume, c'est du belge. Hein.
Ah, mais.
En fait, c'est vraiment une claque visuelle, parce que voilà, les tableaux sur les lanternes en rotation, les dessins en 2D ultra colorés qui se déploient comme en fait un livre de miniatures. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les livres quand on était petit ou quand on les ouvrait, il y avait des parties en relief et tout. Je trouve que ce jeu a vraiment ce ressenti-là, quoi, avec en plus avec un art qui est avec un graphisme qui est inspiré par la littérature persane et ottomane, avec des références claires, avec entre les mille et une nuits et la conférence des oiseaux. Je trouve que vraiment c'est on fait son enquête. C'est complètement barré. Je trouve qu'il y a un côté vraiment dadaïste au truc. Ça part dans tous les sens et il y a beaucoup de et dans l'esprit d'un peu tous les personnages. Et globalement, vas-y, profite. Ça a pas de sens, c'est pas grave. Okay. Et que j'avais bien aimé. Néanmoins, je trouve qu'en termes de gameplay, de structure de jeu, il est pas si fou.
Ah voilà. Oh. On est d'accord.
Ah oui, non mais je comprends pourquoi il a été mis dans cette catégorie-là et pas dans
narrative.
Non,
quoi, ouais.
Pas dans narratif parce qu'il raconte. Tu sais pas trop ce qu'il raconte.
Ouais. Mmh.
Mais en fait, je pense que c'est un peu dû aussi à l'origine du projet, où en fait le projet à la base c'était de faire une exposition d'art et un livre d'images sur la balade d'un artiste qui découvre la ville d'Istanbul.
Okay.
Et qui s'est transformé en jeu. Et je pense qu'en force de vouloir faire des liens un petit peu totalement capillotractés en fait entre les choses, fait que au bout d'un moment en fait tu sais plus ce que tu fais, tu sais pas ce que tu vois, et c'est un peu c'est très dommage.
Je connaissais pas l'origine du projet.
Surtout vu la durée de développement, effectivement le début a plus forcément lien avec la fin. Enfin.
Ouais, voilà. Et le truc c'est que moi je lui trouve un peu une j'ai eu le même problème avec Genesis Noir à l'époque, avec pareil beaucoup d'idées graphiquement très innovants, la musique de fou, et au bout d'un moment je comprenais pas ce que je faisais, quoi. Et 30 Birds a un peu ce problème là mais je trouve que vraiment visuellement il mérite sa place, parce qu'il a vraiment une gueule et c'est un jeu, il est vraiment unique d'un point de vue visuel, unique, quoi.
Il est très beau, ouais.
Ok.
Je vois qu'il n'y a personne qui parle de Clair Obscur. Vous êtes contre la réussite française.
J'ai demandé pour finir, du coup, dans la liste là, si vous avez un à citer sans expliquer quoi que ce soit, votre jeu de l'année dans la liste, dans ceux qui sont présents dans les.
Ouais. Moi, je cite Erdlings parce que j'ai écrit une review sur mon compte Instagram. Donc, allez la lire, comme ça, j'ai pas besoin de vous en parler.
la soirée des escrocs, quoi.
C'est K-A-Z, K-H-A-H-A-Z-Z. Voilà, merci.
Parfait. Nickel.
Faut bien que les gens la trouvent.
Mais t'as bien raison.
Retrouvez-moi sur LinkedIn.
Exactement. Et toi, l'autre escroc, là?
Eh ben, comme l'autre là-bas a déjà dit Ball Pit, parce que ça me fait rire. Je vais dire After Love Hippie.
Ok.
Parce que.
Non, j'ai dit sans expliquer pourquoi, on n'a pas le temps.
Ok. After Love Hippie.
Ouais, il faut sortir après.
Et puis grand hommage à son auteur qui est malheureusement mort il y a 2 ans
et qui sera récompensé, enfin qui sera, il y aura un hommage à lui dans ses Indie Game Awards avec oui. le narrative
ouais, Mohamed
Award
Destiny,
qui
ouais.
est à son nom.
C'est ça, ouais.
Effectivement.
Mais super jeu, super veine. Ouais.
Moi je reste sur The Road Trizarded, mais
ouais.
parce que j'ai pas mieux, j'aurais Keep Driving éventuellement, mais je pense que The Road Trizarded est plus important pour moi.
Un petit name drop, Julien.
Alors ça sera juste Hades 2 parce qu'en fait en ce moment je le mange et je ne vis que pour ça en ce moment.
Ok. Bon, si on avait eu le temps, j'aurais éventuellement posé la question des jeux qui manquent. Notamment, il n'y a pas un seul City Builder, il n'y a pas All Skies, il n'y a pas d'autres trucs.
Il n'y a pas All Skies et c'est un voilà. scandale parce qu'il est tellement.
Il y a des trucs
bien.
Qui effectivement auraient pu y être et puis qui n'y sont pas. Bon, bah, après,
j'aurais mis Little Problems perso, mais.
J'aurais mis.
Parce qu'il est vraiment cool.
J'aurais cité Easy Seed Taken
n'y est pas et c'est scandaleux.
Voilà. Non, mais c'est pour ça. C'est, ouais. On parlait de la sélection.
Wardatro
et de cette année, bien évidemment, ouais. C'est vrai. Il y avait bah, c'est pour ça que c'était intéressant aussi.
Il y en a trop, de toute façon.
Bien sûr. Donc, je comprends qu'ils aient fait une sélection. Bah ouais. Je comprends qu'ils aient fait une sélection. En plus, comme tu le disais, avec des jeux qui sont extrêmement obscurs, pas du tout connus. Donc, c'est bon. Voilà. Je comprends qu'il fallait faire un
choix. Faisons notre cérémonie d'awards. Et
tu sais quoi?
Franchement,
on donne les prix lors de l'Indie Game Lyon.
Allez.
Oh, chiche. On fait ça.
Une bonne idée.
Allez. C'est parti. Ça commence ce soir.
Ça marche. Merci Romain.
Bah merci Xavier, merci Bettina,
merci Bettina.
Julien pour la technique.
Avec plaisir.
Ça a marché. Faites coucou aux gens parce qu'ils vous voient.
Merci Julien et je veux plus d'émissions où tu interviens autant.
T'as pas pu lui pourrir la gueule?
Non.
Comme d'habitude. Je sens que t'es déçu.
On avait trop de trucs à dire. Le pauvre.
Mais en tout cas, ouais, bah, écoutez, bah, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là.
Merci, et puis merci à ceux qui ont suivi en direct aussi sur Twitch.
Et puis merci à ceux qui réécouteront en podcast sur Press F5, le replay.
C'est ça, et donc on revient dans une prochaine émission, peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, on verra.
Oui, peut-être pas la semaine prochaine du coup.
Voilà.
Pas sûr.
Il y a peu de chances que ce soit la semaine prochaine.
On viendra
en forme.
Bonne soirée, et à jeudi prochain, ou pas. Salut.
Bonne soirée tout le monde, salut.